Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Allez papa, nous sommes arrivés.
Le vieux monsieur se réveille et dit,
déjà ?
Il se lève, la dame l'aide à s'habiller. Les chiens sautent en aboyant.
Oui, Kiki, nous arrivons. Oui. Kiki, reste sage, voyons. Voilà, nous sommes arrivés.
Le train arrive en gare. Le train 17575 AB en provenance de rentre en gare sur le quai 2 Sud. Le train 5375 AS à destination. Le train s'arrête. Il faisait déjà nuit. Les quais étaient vides. Il y avait un peu de brouillard. La dame ouvrit la porte pour sortir du train.
Monsieur descendait le premier. Nous sommes guère habiles.
Le jeune homme se trouva à côté du père et de la fille, tendit la main pour leur dire au revoir.
Il se dit, j'ai été très heureux de faire votre connaissance.
Oui. J'étais très heureux de faire votre connaissance et de voyager avec vous. C'était une formule de politesse, car en guise de connaissance.
Moi aussi, j'étais très heureux de faire votre connaissance.
Et par formule de politesse, voici ma carte. Je vais oublier de me présenter à vous.
Le jeune homme lui tendit la carte.
Tendit la main à la femme qui sortit et descendit du train. Il avait toujours dans la tête la 5e symphonie de Tchaïkovski. Le monsieur et la dame arrivèrent à descendre du train, virent le jeune homme s'éloigner, suivre le quai et disparaître dans le brouillard. Le monsieur regarda la carte de visite et avait écrit dessus un nom, Monsieur Charles de Hautebord, le même que l'au-delà du commun.
Thank you.
Achille était dans sa chambre et, comme toutes les nuits, n'arrivait pas à s'endormir. La pièce était sombre, il faisait très chaud, mais la fenêtre restait fermée car dormir à la fenêtre ouverte lui donnait mal à la tête. Il était raide sur son lit, en pyjama. Il ne supportait pas son corps touché, que son corps touche directement les draps. Il était en sueur. Il soupirait, pas à cause de la chaleur, mais de ne pas pouvoir dormir. Il lui était impossible de dormir si ce n'était pas auparavant masturbé. Sans ça, le sommeil ne viendrait pas. Et cette habitude que son corps avait eue dès sa plus tendre enfance, cela avait remplacé qui suçait avant son pouce pour s'endormir. Oui, se masturber avant de s'endormir, c'était comme pour le petit enfant de sucer son pouce. La masturbation lui apportait le sommeil. Mais car ça le détendait en lui faisant oublier les tracasseries de la journée. Mais depuis quelque temps, la masturbation lui apportait autre chose. Et c'est autre chose qu'il faisait hésiter pour se masturber. Il le forçait à passer des nuits blanches, car en se masturbant, depuis quelque temps, il s'imaginait qu'il faisait l'amour avec sa belle-sœur, et cela l'ennuyait. Pas parce que c'était sa belle-sœur, mais à cause qu'il avait du plaisir en pensant à une autre personne. Donc, grâce à une autre personne. De cela, j'en ai déjà parlé. Je vous en ai déjà dit des choses. Déjà dit. Et puis, si la masturbation le rappelait les soucis de la journée, sa belle-sœur, elle ne pouvait plus le détendre. La nuit était de plus en plus longue. Il aurait aimé dormir. Oh, dormir, dormir. Mais comment? Quelle idée aussi d'avoir habitué son corps. Il se tournait, il se retournait, mettait les mains derrière la nuque pour ne pas être tenté. Il se leva d'un bond, marcha dans la pièce, pieds nus. La fraîcheur du sol lui fit du bien. Il ouvrit le tiroir de la table de nuit, une boîte pour prendre 2 sucres. Puis, il se remit en marche. Il se disait que ça ne pouvait plus durer, qu'il fallait faire quelque chose. Tout d'un coup, en croisant ses bras, il vit sa main qui était posée sur son bras. Elle était belle, sa main, fine et douce. Cette main, fine et douce. Comme celle de Flore. Avec sa main, qui prenait son bras. Ceci lui fit du bien. Il avait l'impression que c'était la main de Flore. Sa main reposait sur son bras. Il avait un tel plaisir qu'il n'y tint plus. Il se remit au lit. déboutonna son pyjama. Cela le mettait en sueur. Sa respiration était rapide. Il passait les lèvres. Ses yeux étaient grands ouverts et fixes. Durant toute l'opération, ils ont un peu appelé ceci comme cela. Il pensait constamment à Flore. Il eut du plaisir et de l'angoisse, tout à la fois. Il revoyait toutes ses peines et ses désirs de la journée. D'un certain temps, tout son corps se mit à trembler. Et enfin, c'était fini pour cette nuit. Surtout, ne pas aller à les draps et le pyjama. Il se leva et alla vite dans le lavabo de la chambre pour se nettoyer. Le lavabo se trouvait dans un placard. C'était bien pratique d'avoir de quoi se nettoyer dans une chambre, même si on n'est pas marié. Ensuite, il a envie de pisser. Il avait sommeil, il se recoucha. Satisfait, mais vaincu, le verra bien la nuit prochaine. La lutte du plaisir contre l'angoisse était passée. Il se sentit soulagé. Il s'endormit d'un sommeil pur comme celui d'un nouveau-né. Seté dans le salon, Alexandre lisait les nouvelles. Alexandre lisait les nouvelles.
Il y a un sujet très intéressant. Il compte le suicide d'un chômeur. Le pauvre idiot. Il s'est suicidé parce qu'il ne trouvait pas de travail. Moi, je me suicidais plutôt parce que je serais obligé de travailler. Il se mit à lire à haute voix. Ce chômeur, père de famille, s'était suicidé car il ne supportait pas d'être à la charge de la société. Achille eut sommeil, la chaleur, la douceur du thé et la voix monotone de son oncle. Tout ceci mettait son corps dans une nonchalance telle qu'il avait de la peine à garder les yeux ouverts. Mais à cause de Fleur, il tenait à les garder ouverts et à rester à sa place. Eric avait faim. Il mangeait cake sur cake. Pensait à son roman. Il se demandait comment il allait le continuer. Il voyait bien, pour son histoire, des images, des sons, des voix, de la musique. Mais comment exprimer tout ça par des mots, toute la musique qui était si forte pour exprimer une ambiance, une atmosphère. Alexandre continua à lire des mots, toujours des mots, mais des mots à sensation, à image, des mots pour jouer, mais aussi des mots qui ne vous touchent pas au fond de nous-mêmes. Ah, ce chômeur, il en avait eu des malheurs, mais il s'était donné la mort. C'était vraiment du grand guignol, tout ça. Et puis, on ne peut pas se mettre à la place d'une personne. Il fait beau, on est devant une bonne tasse de café, enfin de thé, quoi. Fleur se demandait comment elle allait s'habiller pour aller en ville. Alexandre continuait à lire.
Hélène se lève. Il faut que j'y aille. Je l'entends.
Et elle sort de la pièce.
Pauvre Hélène. Ça fait combien de temps que ça dure?
Oh, bientôt. Un an.
Et vous, Alexandre, un an,
dit Eric. Alexandre plia son journal et dit,
pourtant, il y avait un brillant avenir devant lui.
Cela lui a pris d'un coup, dit Achille.
Que disent les médecins?
Demanda Alexandre. Oh, les médecins, ils n'y comprennent rien, dit Flore d'une façon nonchalante.
Vous vous souvenez, avant sa maladie, comme il était vivant, enjoué, il voulait aller de l'avant, toujours de l'avant. Il se croyait invincible. Il se disait chanceux. Et puis, on ne sait pas pourquoi, un jour, après une longue absence, il est revenu. Il n'a plus voulu sortir de sa chambre. Il s'est couché, il ne s'est plus relevé.
Alexandre, en terminant cette phrase, laissa couler de larmes. De larmes sur son visage.
M'arrive, mais j'ai dans la tête un air qui m'empêche d'être triste. La 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 la. Pourtant, il y aurait de quoi d'être triste. Ah, mais non. Pourquoi? Puis cette musique, j'ai ramassé. Quelle façon! Ah! Oh! Voilà arrivé. Heureusement que la porte de ma chambre est restée ouverte parce que je n'aurais pas pu mettre la clé dans la serrure. Tu vois un peu double, tu vois être la champagne. La 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 la. Mais d'où vient cette musique qui m'a plus enivré que le champagne. Bon. Je vais me coucherai bien tout habillé. Ah là là. Oh, puis non, mes vêtements me collent. Tant pis. Je me déshabille. Oh. Je laisse les affaires à terre. On verra demain. Une bonne douche et au lit. Puis allongé sur mon lit, j'ai oublié de mettre mon pyjama. Tant pis, je reste comme ça. J'ai soif. Je boirais bien du champagne. J'ai justement une bouteille et un verre. Allez, je me lève.
Couché sur le dos, la bouteille sur la table de nuit, un verre à la main, il boit du champagne. On aurait pu dire qu'il sirotait son champagne, mais ça aurait choqué certaines personnes. On frappe à la porte. Qui est-ce? Ouvre! C'est moi, Charles! Ouvre, Patrick! Ouvre! Après le thé, ils firent leur promenade. Elle se faisait comme toujours dans le silence. La chambre d'Alexandre était un vrai capharnaüm. On y trouvait de tout, de la ficelle, de la confiture, des clous, de la peinture, des revues spécialisées pour l'horloge, l'horlogerie. Après avoir mis son pyjama pour aller se coucher, il se fit chauffer sur un réchaud à gaz. Du chocolat. Parce qu'il pensait que ça allait l'aider à dormir. Puis, il versa le chocolat dans un bol. Et il but son chocolat. Il le but en y mettant 5 sucres. Ensuite, il alla se coucher.
Il couchait avec ses chaussettes parce qu'il avait peur de les égarer. Alexandre rêvait souvent à son enfance. Il voyait ses joies, ses peines, surtout ses peines. Étant enfant, il avait des peurs terribles. Il avait surtout peur du feu, de l'eau, des personnes à barbe. Il avait aussi peur des enfants de son âge. Ses peurs lui étaient venues parce qu'il était en retard à l'école et qu'on l'avait mis dans une classe où les enfants étaient 3 ans plus jeunes que lui. On se moquait de lui, surtout les élèves qui avaient son âge. Il rougissait en passant dans les rangs avec les camarades de sa classe, lui qui était beaucoup plus grand que les autres. Il n'avait pas de camarades de son âge. Camarades était beaucoup plus jeune que lui, se sentait en sécurité avec eux. Et puis il aimait bien leur petit visage angélique, leurs petites mains. Il aimait se blottir contre ce grand garçon qui se moquait un peu d'eux. Mais un jour, son corps changea, sa voix devint plus grave. Il eut quelques poils aux jambes et aux bras. Et petit, comme tous les enfants, car pour les enfants, les poils sont quelque chose de dégoûtant, se mirent à se moquer de lui. Il eut honte d'avoir changé. Il se trouva seul, sans camarade de son âge et ridiculisé par les autres. Si on venait lui parler, c'était pour lui poser des questions qui faisaient rougir. Sa grande peur, c'était de se déshabiller devant sa classe pour prendre sa douche hebdomadaire. Alexandre songeait un rêve et voyait des scènes de sa jeunesse. Ça le faisait rougir durant son sommeil. Thank you.
Hélène laissa son ouvrage. Elle alla s'asseoir à la table pour prendre son thé.
Il y a un grand article sur la guerre atomique,
dit Alexandre.
Il paraît que ce sera terrible. Une énorme boule de feu dans le ciel et tout sera détruit.
Après le thé, Hélène et Flore se trouvaient sur la terrasse et regardaient le paysage. Hélène dit
« Voyez comme c'est beau, ce ciel bleu, pur, lumineux. J'espère c'est qu'ils ne viendront pas lancer ici leur sale bombe. Vous voyez, sur ce ciel bleu, un énorme champignon rouge. Quelle horreur! Cela gâcherait tout le paysage. » Et puis il paraît que ça fait beaucoup de poussière, moi qui ne supporte pas la poussière. Et comment ferions-nous pour l'enlever? Mon Dieu, des nuages de poussière et ce ciel avec ce champignon rouge. Non, j'aime mieux ne pas y penser. Et mes bégonias, mes pauvres bégonias, ils en mourront. Non, il ne faut pas qu'ils lancent cette chose ici. Chez nous. Et puis, ils nous connaissent. Ils savent qui nous sommes. Nous sommes des gens estimables.
Hélène, croyez-vous que cela puisse faire beaucoup de morts? Hélène n'avait pas entendu ou ne voulait pas entendre quelque chose encore plus désagréable que ce qu'elle s'était imaginé. Flore avait posé cette question comme cela sans y penser, car pour elle encore, très jeune, la mort ne signifiait rien. Flore était dans sa chambre et se préparait pour la nuit. Assise à sa coiffeuse, elle se démaquillait. Elle pensait à son enfance, une enfance dure, triste. Ses parents étaient insouciants et toujours endettés. Son père vendait des parfums qu'il fabriquait lui-même. Son petit magasin se trouvait à Paris, rue Saint-Honoré. Les parfums se vendaient bien, mais les dépenses du ménage étaient plus grandes que les bénéfices. La mère de Flore était d'une famille de gros industriels. Elles étaient habituées à vivre avec les mêmes dépenses que sa jeunesse. Comme son mari était d'une nature insouciante, il y eut de nombreuses faillites et de fréquents déménagements. Flore, dès sa plus tendre enfance, était d'une nature délicate, émotive à l'extrême, et ne supportait pas cette vie instable. Elle avait besoin de vivre dans un milieu calme et confiant. Elle était comme une plante qui avait besoin de prendre racine dans une terre ferme et dure. Tous ces déménagements l'empêchaient de se fixer sur un paysage, une chambre, des gens. Flore se mit au lit et soupira, toujours seule dans ce grand lit. Mariée, sur le papier en tout cas, car Patrick, quelques jours après son mariage, était tombé malade. Voilà bientôt un an qu'elle était mariée et vierge. Et puis, il y eut le drame. Ses parents avaient de plus en plus de dettes. Il prit peur malgré leur insouciance. Son père décida d'aller voir un de ses oncles. Il était très riche et célibataire. Il habitait le château de... Il se nommait le comte de Godefroy. Son oncle reçut de mauvaises grâces. Ils étaient tous deux assis près de la cheminée. Et l'on ne sut pas pourquoi, il prit le tisonnier qui se trouvait devant la cheminée et tapa le comte Godefroy, qui s'effondra. Il resta debout, essoufflé en silence, il lâcha le tisonnier. Flore frissonna, elle voulait trouver le sommeil, mais elle ne pouvait pas. Trop de souvenirs. Il fut arrêté, on ne comprit pas son geste, comment un homme insouciant avait-il fait ça. Flore se mit à pleurer. Plus tard, Flore trouva une lettre de sa mère. Elle était adressée à son père. Elle disait qu'elle allait le quitter et vivre avec. L'inverse de cette vie insouciante. Sa mère, qui semblait si insouciante.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre.